Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur la locale à Saint-Girons dans l'émission La fille à la fenêtre. Salut, salut tout le monde. Donc c'est La fille à la fenêtre, épisode 4. La fille à la fenêtre, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission sur la littérature, une émission féministe sur la littérature, et une émission féministe sur la littérature écrite par des femmes. Et en fait, je dis émission féministe et pas littérature féministe, parce que la littérature dont on parle est juste écrite par des femmes, elle n'est pas forcément féministe, cette littérature-là, c'est pas forcément des personnes qui ont dit d'elles-mêmes qu'elles étaient féministes. Mais en parlant de ces autrices, hein, ça c'est un mot que j'ai déjà expliqué mais je vais peut-être en reparler, l'idée c'est de dessiner une expérience commune du monde qui est retranscrite dans la littérature par des femmes. Voilà, en partant de l'idée que de toute manière nous vivons dans un monde patriarcal qui a été créé par les hommes et pour les hommes, c'est la société dans laquelle nous vivons, et que en lisant... En faisant l'effort de découvrir des femmes qui ont été inconnues, oubliées et qu'on ne lit plus, on peut dessiner un monde commun. Un monde commun, c'est l'idée de créer un monde qui serait propre aux femmes, qui se baserait sur l'expérience des femmes. Donc aujourd'hui, c'est la quatrième émission. On va parler d'un roman, c'est pas un roman, c'est une nouvelle qui s'appelle Emerentia 1713, qui a été écrit par une autrice suisse. Ah oui, je voulais reparler du mot autrice. En fait, on entend beaucoup auteure avec un E pour féminiser le nom d'auteur. Mais en fait, auteure avec un E, c'est un mot qui est un néologisme qui a été inventé très récemment. Tandis que le mot autrice existait déjà en latin sous la forme auctrix, à l'époque de l'Antiquité romaine, absolument. Et il a été ensuite repris par des femmes qui écrivaient au 15e siècle et au 16e siècle, à partir du moment où on a commencé à écrire en français. Et ce mot a subi une campagne d'anéantissement qui a duré un certain temps par l'Académie française, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Et on dit très bien créatrice, inspectrice, enquêtrice, impératrice. Alors pourquoi ne dirait-on pas autrice ? Donc aujourd'hui, on va plus être en Angleterre parce qu'on a quand même fait 3 émissions en Angleterre. Aujourd'hui, on va aller voir du côté de la Suisse et de la Suisse romande avec une autrice qui s'appelle Corinna Bille, comme la bille, quand on jouait aux billes, et qui a écrit ce livre qui s'appelle Emerentia 1713. Et en fait, on va refaire un peu le lien avec la première émission qu'on a faite, où on avait parlé des sorcières et de la chasse aux sorcières. Dans cette émission, on avait évoqué quelques pistes pour essayer de comprendre le phénomène de la chasse aux sorcières, qui grossièrement a commencé au 14e, 15e siècle, pour se terminer à peu près au 18e siècle. On avait notamment vu qu'à partir du 16e siècle, donc 1500 et des brouettes, l'Église catholique s'est sentie fragilisée par la montée de la réforme qui a été d'abord menée par Martin Luther, la réforme protestante, mais après dont d'autres personnes se sont emparées, qui a connu différents courants, et qu'en fait, que les guerres de religion, le fait que chaque Église se sente menacée dans le pouvoir qu'elle a sur des territoires, des zones de population, avait cherché à garder le contrôle sur le dos des femmes, en fait, en criminalisant les femmes, en les tuant et en les rentrant au foyer. Alors c'était une des raisons de la chasse aux sorcières, parce qu'en fait, il y a énormément de raisons à la chasse aux sorcières. On peut pas juste dire plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes ont été tuées pour une raison. C'était lié à différentes choses. Et en fait, dans cette première émission, on avait parlé de 2 livres. Au départ, je voulais parler de 3 livres. Et le troisième livre, c'était Emerentia, mais par faute de temps, j'en avais pas parlé. Donc aujourd'hui, on va consacrer l'émission tout entière à ce livre. On avait parlé du diable, on avait parlé du fait qu'on attribuait aux femmes un rôle maléfique, qu'on les accusait de faire des pactes avec le diable. Et c'est aussi de ça dont il s'agit dans le récit de Corinna Bille et Emerentia. Alors Corinna Bille, elle est née en 1912 et elle est décédée en 1979, donc elle est pas très loin de nous quand même. Et en fait, c'est le livre dont on va parler, c'est le dernier livre qu'elle a publié de son vivant. C'est un diptyque, donc diptyque ça veut dire deux choses, donc c'est deux récits qu'elle a mis ensemble sous le titre de Deux Passions. On va parler que du premier qui s'appelle Emerentia 1713. Alors le recueil de passion, on peut le trouver chez Gallimard. Alors c'est un peu dur à trouver. Il n'est pas très cher sur internet et sinon comme j'ai pas l'impression qu'il ait été beaucoup réédité depuis 1979 chez Gallimard, il n'est pas en livre de poche. Donc il faut quand même un peu chercher pour le trouver. C'est dans la collection littérature Gallimard normale. On peut aussi trouver uniquement la nouvelle Emerentia 1713 aux éditions Zoé. Alors c'est une maison d'édition suisse, donc ils sont pas hyper bien diffusés en France. C'est un petit format qui s'appelle Mini Zoé, une petite collection de poches. Voilà. Donc Corinna B, c'est un nom de plume, parce qu'en fait son véritable prénom c'est pas Corinna, c'est Stéphanie. Elle s'appelait Stéphanie B. Et en fait, quand elle s'est mise à écrire, elle a décidé de prendre le prénom Corinna pour nom de plume, pour faire hommage au village natal de sa mère, qui s'appelle Corin, qui est situé dans le canton suisse du Valais. Donc c'est un canton suisse qui est au sud de Lausanne. C'est une région de montagne, les Alpes, qui est traversée par le Rhône. Et donc Corinna B avait une mère paysanne, qui venait d'un milieu plutôt très pauvre, et d'un père peintre. Et elle a choisi de se consacrer à l'écriture dès les années 40. Alors il faut aussi dire que son père, qui était donc artiste, qui était un peintre, pas un peintre en bâtiment, qui faisait des tableaux, etc. Bon, déjà, ça fait qu'elle n'était pas dans une classe sociale très basse non plus. Je pense qu'elle faisait partie de ce qu'on peut appeler la bohème, c'est-à-dire des artistes qui ne vivent pas dans des conditions matérielles très hyper confortables, mais qui ont quand même un peu d'argent. Par contre, elle a vraiment toute une partie de son héritage. C'est vraiment cet héritage des paysans du Valais qui travaillait dans des conditions très difficiles, et elle a eu cet héritage de par sa mère, et c'est quelque chose qui va beaucoup apparaître dans son œuvre. Donc elle a vécu toute sa vie dans cette même région, avec son mari, l'écrivain Maurice Chapaz, que je n'ai pas lu, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais peut-être un jour je le lirai. Elle a eu 3 enfants avec lui, et elle a consacré toute sa vie à l'écriture. Elle a laissé une œuvre très très étonnante. Alors il y a 2 romans, si je me trompe pas, ou peut-être 3, et sinon c'est surtout des nouvelles et des récits ou des textes très très courts. Elle fait énormément de portraits de femmes qui sont souvent très étonnants. Toute sa littérature a pour la plupart du temps le cadre de sa région natale, et elle s'inspirait aussi beaucoup de ses rêves pour écrire. Pour être honnête, il y a beaucoup de ses textes dont j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut dire. C'est très très beau, mais parfois on sait pas où elle veut en venir forcément. Alors c'est pas le cas du tout avec le texte que j'ai choisi aujourd'hui. Elle peut traiter de thèmes comme la folie, la perte, le deuil, la passion amoureuse destructrice, et aussi des gens qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, qui sont extrêmement différents, l'adultère, des choses comme ça. Voilà, ah oui, je voulais lire une petite citation, une phrase qu'elle a dite dans un interview, Corinna B, une phrase qui est très très belle. Quand on lui a demandé « Pourquoi écrivez-vous ?», elle a répondu « On ne peut pas supporter le bonheur, on ne peut pas supporter la souffrance. L'écriture, c'est un remède à l'insupportable. Mon travail seul me donne l'équilibre, la cohérence nécessaire, que ni le social, ni le religieux, ni l'aventure, ni même la maternité ne peuvent m'assurer. » Voilà, donc c'était pour compléter un peu le portrait de Corinna B. Et donc avec Emerentia, Corinna B, elle va regarder la violence exercée sur les femmes par la religion catholique. Parce qu'en fait, le Valais, à cette époque-là, c'est une région qui avait failli devenir protestante, mais qui était restée catholique. Et donc, du fait que cette région s'était sentie menacée, l'Église faisait régner un ordre moral encore plus difficile. Alors, de quelle époque on parle ? Excusez-moi, parce qu'en fait, il s'agit d'une nouvelle historique. On parle du XVIIIe siècle. Comme le dit le titre, c'est une nouvelle qui se passe en 1713. Emerentia 1713. Emerentia parle d'une petite fille qui refuse de faire son catéchisme et qui est envoyée en pénitence chez un prêtre. Alors je vais vous lire un premier extrait. J'ai choisi des extraits plutôt longs parce que je ne vais pas beaucoup parler dans cette émission. Je vais surtout lire. La plaine de la vallée du Haut-Rhône est un vaste marécage. Quelques collines boisées de pins émergent de ces étendues de roseaux, d'herbes dures où seuls peuvent paître le cheval, le taureau. Des dunes qu'on appelle les îles, sèches au soleil réverbéré, s'élèvent en nues blanchâtres dans le vent. Les villages se tiennent loin d'elles, étagés au contrefort des chaînes de montagne. La route taillée dans le roc, à la droite du fleuve, Sion, la capitale, et deux autres villes bâties sur les éminences les plus solides de cette terre de la Genèse, où les boues et les eaux ne se séparent pas encore, sont les seuls signes qui la relient au monde. Emerentia est assise sur le devant de la selle, ses petits pieds contre la crinière, bien tenus autour de la taille. Elle aime chevaucher ainsi et dominer le monde dans ses bras du Seigneur, son Père. On commence à paver certaines rues de la ville avec les cailloux ronds et blancs du fleuve, aussi purs que l'albâtre. Les deux cavaliers passent par la rue des Vaches, ils font le tour des remparts et, par la porte de l'ouest, se lancent dans les sables et les prairies où s'ouvre la tulipe sauvage. Ils allèrent un jour très loin, vers le couchant rouge, jusqu'au marais des Prases pourries. Au retour, Madame de M les a vus. Elle a pincé longuement ses lèvres, qui sont devenues bleues. « Je ne veux plus que vous sortiez la petite ainsi. C'est trop dangereux pour elle, et pour vous. » Le Seigneur ne répond pas. Il admire sa seconde épouse et il la craint. Quand avait eu lieu leur mariage, Emerentia avait 5 ans. Devant la cathédrale, attendaient les messieurs à fraises tuyautées, chapeaux à la calotte en pain de sucre, et, derrière eux, les éclopés, les pauvres. La nef pleine, les notables à genoux sur les bancs blasonnés. Un cri. Deux laquais en livrée charbonneuse et boutons d'or fendent la foule. Ils portent Emerentia, tout entière vêtue de velours noir d'où pendent 2 petits brodequins violets. Une duègne les suit. Ils sortent. Elle n'a pas supporté l'encens, dit quelqu'un. Dites plutôt qu'elle ne supporte pas la mort de sa vraie mère. Cette cérémonie solennelle ne peut que lui en rappeler une autre. L'enterrement. Le Seigneur, c'était mes alliés. À présent, il a pris une personne de haute naissance. Une femme du peuple gémit. On a raconté que la fillette griffait le cercueil de la défunte, qu'elle se couchait dessus, qu'elle hurlait. Les chiens qui aiment leur maître font ça aussi. Pour une enfant qui ne comprend pas, qu'est-ce que la mort ? Le bon Dieu te l'a prise, elle est au ciel. Tu dois prier pour le repos de son âme, lui chuchotent les dames de Sion. Emerentia est le bon Dieu, le ciel, ne veut pas réciter l'Ave, ni le Pater, mais on l'oblige à retourner à l'église, dans l'ombre et la froideur des piliers. Les cièges brûlent au jour et nuit, ne la réchauffent pas. Elle regarde le Christ sur sa croix, ce corps nu, d'où jaillissent des grappes de sang noir, ce visage rayé de rouge, sous l'épais turban d'épines. Ici est le manque, le lieu de toutes les épouvantes. Madame de M, belle-mère d'Emerentia, descendait des grands Lombards, ses premiers banquiers du Valais, qui venaient d'Outre-Simplon et s'enrichir au XIVe siècle dans cette vallée misérable. La petite fille tombe malade. Près de son lit, ses vieilles tantes, sœurs de son père, grises et moustachues, dormantes comme les marmottes d'hiver, marmottent leurs prières. Emerentia hurle et se cache la tête sous les draps. À son baldaquin pend un crucifix. Elle l'arrache et le jette par la fenêtre. Elle déchire son missel. « Nous la mettrons en pénitence chez le saint prêtre du village de F », dit Madame de M. Emerentia est reléguée à l'âge de 7 ans, par sa famille noble, chez le curé de ce village, réputé pour la rigueur de sa foi. Madame Fulcri, la gouvernante, s'occupe de la tenue de la petite fille et de son habillement. Le doyen de son âme. Cet hiver-là, le Rhône charriait de grands glaçons, le vrai Rhône. Les rivières, les ruisseaux coulaient, cachés, sans bruit. La plaine est devenue encore plus plate, unie et pâle, mais bleuâtre, comme du lait trop écrémé. Et même les îles, on les voyait à peine, toutes givrées, transparentes, effacées du monde. Quand Emerentia les fixait longtemps du regard, elles semblaient se mettre en marche, dérivées. Elle en parla un jour aux vieux du village et ils dirent « La petite voit ce qui sera ». Le doyen la questionne « Qu'est-ce que la grâce ?» Pas de réponse. Répète « La grâce est un don surnaturel que Dieu nous donne gratuitement en vue des mérites de Jésus-Christ pour faire notre salut. Tu as bien entendu ?» Répète. Silence. Pouvons-nous perdre la grâce après que nous l'ayons reçue ? Emerentia hoche la tête. Je voudrais que tu récites ce que tu as étudié dans ton catéchisme. Récite. Là-bas, au loin, crient les oies. L'une est restée prise dans la glace et se meurt. Sur le panneau ouvert de son secrétaire en forme de tour, le révérend doyen écrit dans son journal. J'ai bien reçu ce jour de la haute et pieuse dame de M la pension due pour le premier trimestre que j'ai aussitôt quittancée et portée en compte. Par après, j'ai administré à la petite Mérette, Emerentia, sa correction régulière de la semaine, qui a été plus rude, parce que je l'ai couchée sur le banc et fouettée avec une verge neuve, non sans lamenter et soupirer vers le Seigneur pour qu'il veuille bien mener à bonne fin la triste besogne. En vérité, la petite a poussé des cris douloureux et demandé pardon avec humilité et désolation, mais elle ne s'est pas moins obstinée dans son endurcissement, et elle a fait mépris du livre de messe mis sous ses yeux par moi pour son étude. En conséquence, je l'ai laissé souffler un moment, puis mise aux arrêts dans la sombre réserve au lard, où elle a poussé des gémissements et des plaintes, mais ensuite elle s'est calmée, jusqu'à ce que tout à coup, elle se fût mise à chanter et à jubiler, non autrement que les trois saints dans la fournaise ardente, et j'ai écouté et reconnu qu'elle chantait les mêmes psaumes versifiés qu'elle refusait par ailleurs d'apprendre, mais d'une manière tellement déplacée et profane, à la façon des sottes et ineptes chansons de nourrices et d'enfants. De telle sorte que je me vis forcé de prendre une telle conduite pour une nouvelle malice et un tour du démon. Dans son cachot, Emerentia avait chanté deux séquences de la fête du Très-Saint Sacrement. Quand tu vois rompre l'hostie, que ta foi ne vacille point. Souviens-toi que chaque parcelle en cache autant que le tout. Voici le pain des anges devenu pain des voyageurs, mais c'est le pain des seuls enfants qu'on ne le jette pas aux chiens. Sur l'air de « Le fils du roi s'en va chassant avec son beau fusil d'argent, mire le noir et tue le blanc, par-dessous l'aile il perd son sang. Par les yeux lui sort des diamants, et par le bec l'or et l'argent. Ô fils du roi, tu es méchant d'avoir tué mon canard blanc. » Et ce furent plutôt ces paroles-là que monsieur le doyen, raidi de colère, entendit, ce qui lui donna une furieuse envie d'aller tirer un de ses volatiles, et il sortit.
I can't. lost on you. And you'll see me on the street, the hand you'll hold will feel so wrong, but you'll get used to it. There'll never be a woman like on the wrong side of the fence. You have hereby been sentenced with the seed planted from my lips, germinated to each crevice where the need grows to fester. And you'll see me on the street, just still your heart, 'cause from now on it's easy company. There'll never be a woman like me. You'll never never meet another woman like me.
On continue la lecture d'Emerentia de Corinne Abille. Les feuilles cuivrées d'un petit bois de chêne nain au-dessus du village claquettent, métalliques. Les amandiers cernent les murs de pierres sèches de nuages rosés. Ici, la terre est déjà chaude. Là-bas, les étendues fangeuses exhalent leur miasme. Emerentia pense que les trésors du monde sont autour d'elle. Le soleil, le fun tiède, la transparence de la rivière. Mais elle ne sait pas qu'elle-même en est la crème et la couronne. Debout devant elle, monsieur le doyen la questionne. « Qu'est-ce que la trinité radieuse ?» Il n'y aura pas de réponse. La fillette serre des lèvres effroyablement pâles. « Répète, c'est un dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Elle tremble, le regard fixe. On croirait qu'elle ne voit plus rien, un regard d'aveugle né, mais d'une beauté bouleversante où le blanc n'existe pas. Cette rigidité, ce silence trouble le prêtre. « Je veux que tu dises, le Père, le Fils et... » Emerentia tombe sur le plancher et s'y roule, se tord, en poussant d'affreux cris. Une servante et Madame Fulcry viennent la chercher, la ligotent, la mettent au lit. Elle devra dormir sans avoir soupé. Mais pourra-t-elle dormir ? Oui, puisqu'elle rêve. Elle est assise accrue sur la crinière du cheval arabe de son père, mais il la tient bien fort dans ses bras. « Vous devriez l'exorciser, » dit Madame Fulcry au doyen. Il se tait. Peut-être a-t-il peur. Il n'a jamais autant cru aux démons qu'en présence d'Emerentia. « Nous verrons plus tard, » finit-il par répondre. Il cessa plusieurs jours de la questionner, puis il recommença. « Qu'est-ce que le péché ?» Silence. « Si tu ne réponds pas, tu seras fouetté avec des branches d'églantier. » Emerentia craignait ses épines plus encore que les lanières de cuir. Elle répondit d'un trait, sans respirer. « Il y a le péché de la vie et le péché de la mort. » Le doyen fut tellement surpris, et de la réponse et qu'elle ait répondu, qu'il en laissa choir le catéchisme. « Pourquoi dis-tu cela ? » bégaya-t-il. « J'ai répondu sans penser à rien parce que le catéchisme s'est écrit sans penser. On ne peut rien comprendre dans le catéchisme. » Elle avait parlé en levant courageusement vers lui ses yeux trop grands, qui n'exprimait ni joie ni haine, mais une indifférence poignante. Une sensibilité enfantine d'adulte, pétrifiée, lisse. C'était un regard d'un cristal noir, d'une force insoutenable. Le lendemain, Emerentia partit se promener avec les enfants du village. Elle racontait à ses nouveaux amis qu'il y avait des sirènes dans le Rhône. Ils ne savent pas ce que c'est. Elle essaie de leur expliquer. Elle les connaît. Il y en a une dans le château de son père, suspendue au plafond de la grande salle, ornée de bois de cerf et de flambeaux. Les gamins l'écoutent, crédules, éblouis. Parfois, un brochet ou une vieille carpe saute au centre d'un marais, et plus il est petit, plus le poisson apparaît gros. Ils crient tous « Une sirène !» Non, une sirène, c'est moitié poisson, moitié fille. Elle porte même un bonnet de dentelle, expliquait Mérencia. Quand elle parle, les choses deviennent vraies. La mer limon, les bêtes, les arbres, les plantes ont une chair et une âme, parentes de la sienne. Les enfants disaient « larme de crapaud, larme de sang ». Ils désignaient les adonides rouges, la dox musquée, dont la petite fleur est bleue, puis verte. Emerentia cueillait la fleur d'ombre, le glaïeul sauvage, et leur apprenait leur nom. Les sables se recouvraient par places d'une mousse noire roussâtre. Oh ! Dans une arène grise, non entièrement asséchée malgré la forte chaleur, s'ouvraient les orchidées violettes aux pétales étagés. Jamais ils n'en avaient vu un si grand nombre. Au retour, ils racontèrent à leurs parents qu'Emerentia, par sa seule présence, faisait sortir les fleurs de la boue. Un autre jour, ils allèrent jusqu'aux îles. Sur l'une d'elles poussaient les pins. Ils voulurent faire un feu, mais la petite fille le leur défendit. « Tu as peur de brûler comme une sorcière !» se moquèrent les aînés, qui savaient tout ce que les gens disaient sur elle. Emerentia demeura sans réponse. Elle ne pouvait comprendre. Elle qui comprenait tant de choses, pourquoi les flammes l'effrayaient à ce point ? Ils virent des insectes rouges pointillés de noir, un papillon et des oiseaux criards aux ailes bleues qui demeurèrent autour des enfants. Le macaon géant se posa sur le front d'Emerentia, où perlaient des gouttes de sueur. Mais elle arriva en retard pour sa leçon de catéchisme et fut fouettée. Ensuite, le doyen voulut lui faire réciter le credo. Elle refusa obstinément. « Je ne me souviens pas des paroles, avoua-t-elle. » Il se mit en devoir de l'aider et récapitula les deux premiers articles du credo, lentement, en donnant de patientes et très occultes explications. « Et maintenant, que nous enseigne le troisième article ? Il nous enseigne que Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et que sa mère, toujours vierge, s'appelle Marie. Répète. » Mais déjà, au mot de mère, Emerentia est reprise d'un tremblement terrible qui ne s'arrête plus. Le doyen attend, pianote de ses doigts squelettiques, la table bien cirée. La petite fille est distraite par ce bruit qui lui rappelle le toc-toc des pies verts contre les troncs des peupliers. Elle se calme. « Qui t'a créé et mis au monde ? C'est Dieu. Répète, c'est Dieu. » Elle ne répond pas, ne comprenant pas. Elle finit par dire « Je n'ai pas été créé. » « C'est scandaleux !» s'écria le prêtre. Il avait secoué son rabat sacerdotal avec tant de nervosité qu'il en demeura tout de travers sur sa poitrine. « Une enfant de 7 ans qui ne sait pas que Dieu l'a créé ?» Le doyen respire avec peine. « Tu réciteras le credo. » Mais Emerentia se tait. Elle est retournée aux étangs. Elle ose s'approcher du grand Rhône avec les galopins du village. Les eaux montent et ils ont dû traverser les rivières. Ici, le sol redevient dur et sur lui rampe une lavande naine. Elle marche, elle court, mais soudain elle s'arrête. Un petit animal d'une teinte émeraude reste figé sur le sable, dans une indifférence de mort, l'œil pétrifié. C'est un lézard vert, le roi de la catalepsie. Les enfants autour d'Emerentia ne bougent pas plus. Ils le regardent longtemps. Il est crevé ? Non. Comment devine-t-elle ce mystère ? Mais elle est faite de la même invariable et surprenante texture que la nature. Elle sentait qu'elle ne devait pas troubler ce sommeil apparent. Ils l'abandonnèrent. Quand ils eurent disparu dans les carex, le lézard arrondit les chines, se dressa sur ses pattes, baissa la tête et sauta sur une coronelle. Dans la plaine, au-dessus des joncs, les enfants voyaient passer les chevaux et les petits taureaux noirs. Les hommes les chassaient au loin. Il les y laisserait tout l'été, mais parfois il revenait les chercher, le soir. Emerentia arracha des algues pour s'en faire une traîne, y cacher ses jambes. Elle déchira le haut de sa tunique, de toile grossière, et son torse blanc apparut, tout plat, avec deux épines roses. « Je suis une sirène, » dit-elle fièrement. Alors tous, ils se baignèrent, gesticulèrent, lançant des cris, laissant aussi tomber peu à peu leurs nippes, les filles, leurs jupes effrangées, les garçons, leurs pauvres pantalons à porte-tête. Les plus jeunes avaient encore la robe, et ils offrirent au vent leur corps nu. Ils éprouvent des sensations diverses et agréables, nouvelles. C'est intéressant de se voir et de voir les autres, surtout de regarder la peau si fine, si pâle d'Emerentia, vers laquelle ils tendent des mains avides, respectueuses. Le premier étonnement passé, ils sont devenus très joyeux, ils se laissent glisser sur les dunes. Le sable humide se colle à leur corps, incrusté de particules brillantes, du mica, du quartz, d'infimes grenats. Ils se relèvent et forment une grande ronde. Ils chantent d'une voix éraillée des couplets, et ces couplets, il fallait aussi les mimer. « Plantons la vigne, la voilà la jolie vigne, vigny, vignon, vignon le vin. De rivière en pisse, la voilà la jolie pisse, pissi, pisson. » Des propriétaires ramenant des taureaux les aperçurent et rapportèrent tout au doyen. Il fit passer en jugement la troupe des gamins. Ils surent bien se défendre et prétendirent avoir joué au roi dépouillé, appelé aussi le roi des sottises. Cette royauté oblige le personnage à qui elle est infligée de se laisser dévêtir par degrés. La coiffure, une manche, deux manches, un bouton, et ainsi de suite. À moins d'une vigoureuse résistance de Sa Majesté. Votre reine, c'était sûrement Emerentia. Que peut-elle tant raconter aux enfants, se demandaient les pères et les mères. Des histoires maléfiques? Peut-être cherche-t-elle à avoir des accointances avec le diable? Rien d'étonnant à cela, pensait le prêtre. Son grand-père s'intéressait au grand et au petit Albert. Lui-même, en visite chez le seigneur, les lui avait dérobés et emportés à la cure. Il lui arrivait de les lire. Il avait lu aussi avec beaucoup d'intérêt le procès de la sorcière brûlée, vive, le 6 avril 1652, Michée Chauderon. Quel nom fatidique! D'abord, elle avait été lapidée par des femmes et des enfants. Puis les médecins avaient cherché sur son corps la région insensible à la douleur, en y enfonçant leurs longues épingles. Cette insensibilité est le signe d'une appartenance démoniaque. Elle avait avoué avoir vu le malin, aux eaux vives, en forme de gros lièvre rouge. Le doyen soupire. Il siffle plutôt. Sa bronchite chronique émet dans sa poitrine des crépitements sourds. Il a repris son journal. Me vis contraint ce jour de couper à la petite demoiselle toute relation et conversation avec les enfants des paysans, parce qu'elle a couru au bois avec eux, s'est baignée alors dans l'étang, a accroché à une branche d'arbre la petite chemise de pénitente que je lui avais ordonnée, a sauté et dansé devant eux toute nue et excité ses compagnons à des moqueries et polissonneries dévergondées. Correction d'importance.
Thank you.
Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans La fille à la fenêtre. Alors on vient d'écouter Dear Darkness de PJ Harvey sur un album qui s'appelle White Shulk. Et la chanson d'avant que j'ai oublié d'annoncer aussi, c'était Wrong Side of the Fence, ce qui veut dire du mauvais côté de la barrière, par China Woman. On continue la lecture de Corinne Abille, Emerencia, 1713. Emerencia ne dormait plus la nuit. Elle se laissait lentement glisser de sa couchette haute sur pied, s'approchait de la fenêtre et, sa tête rasée, penchée en avant, elle écoutait le bruit du fleuve. Elle avait peur, mais une liberté provisoire lui était rendue, puisque les autres dormaient. Il n'y avait pas sur elle des yeux, ni la ténèbre ni Satan ne l'inquiétaient. La présence des vivants qui l'entouraient était plus redoutable. Les ronflements porcins de Dame Fulcrie lui appartenaient-ils en propre ? De jour, cette femme n'était que dignité agressive. Le doyen, parfois en rêve, poussait un cri lointain que les corridors prolongeaient dans la demeure. Emerencia frissonnait. Elle sentait le vent devenir glacé et remontait sur son lit. Ne restait pour Emerencia que les offices religieux. Elle ne devait en manquer aucun, ni matine, ni vêpres. Certes, l'église de F était moins sépulcrale que celle de la capitale, l'encens moins riche. Mais elle y demeurait muette, refusant toujours de chanter les psaumes. Une seule chose lui plaisait, le ballet des enfants de chœur en tunique rouge vif, jupons de dentelle, qui allaient et venaient, se balançant au rythme des clochettes et des agenouillements. Elle ouvrit un jour la bouche et déclara « J'aimerais être enfant de chœur ». Ce désir fut accueilli par de gros rires. « C'est seulement pour les garçons !»« Les filles n'ont pas le droit de faire ci, de faire ça !» répétait Madame Fulcrie. « Ce n'est pas convenable. Une demoiselle doit rester modestement à sa place et ne jamais attirer l'attention. » Le doyen n'avait-il pas affirmé en chair ?« Toutes les femmes devraient mourir de honte à la pensée d'être née femme !» a dit Saint-Clément d'Alexandrie. Une servante introduisit le grand vicaire dans le salon de la cure. « Donati, rappela le doyen, amène-nous Mérette. »« Elle ne veut pas venir. Amenez-la de force !» Il se ravisa. « Non. » Et, se tournant vers l'envoyé de Monseigneur l'évêque, « C'est un caractère mauvais. Je n'ai pas vu pourquoi sa famille désirait son portrait. Il ne peut qu'accentuer l'orgueil de cette vaniteuse. » L'orgueil et la vanité sont choses différentes, se permit de remarquer le vicaire. Elle est possédée par l'orgueil et aussi la vanité. Le doyen avait saisi la grande tête de mort sur le haut de son secrétaire. Voilà ce que j'aurais voulu l'obliger à tenir en main. Cela seul eût pu lui donner de la réflexion. Elle n'en a aucune. Voulez-vous me faire le plaisir de me montrer ce portrait ? Nous l'avons caché au galetas. Et le doyen fit machinalement un signe de croix, mais il le fit à l'envers et tout à fait involontairement, ce qui l'impressionna fort. Le vicaire pensif l'observait. « Monseigneur vous adresse ses salutations, » commença-t-il. François-Joseph Super-Saxo, descendant en droite ligne du célèbre Georges. Quand il lui venait des visites de la capitale, le doyen, se sachant soupçonné, Dieu sait de quoi, leur opposait toujours une mine de verglas, regardant l'intrus de biais. Il se souvint brusquement que les grilles du vicariat étaient ornées de petits monstres de fer forgé, et il ne put réprimer un sourire qui le remit d'aplomb. Mais le vicaire insistait pour qu'on lui apportât le tableau. « C'est elle, vraiment ?» Donati enlevait quelques toiles d'araignée et l'une d'elles courut sur le plancher. « Je l'ai connue très belle et si intelligente. Rien n'échappait à la finesse de cet enfant. Je l'ai entendue un jour. Elle savait plus de latin que certains étudiants. Elle refuse toute religion, » trancha le doyen. Le vicaire se pencha sur le tableau inachevé, peint à l'huile, au revers d'une planche de jeu d'échecs. L'artiste n'avait eu le temps que de tracer les contours de sa robe. Elle s'efface. Seule la fraise savamment gaudronnée maintient dans son carcan la tête étrange et le devantier de soie, les poignets bordés de dentelles d'or sont restitués fidèlement. Mais la parure en forme de diadème, où scintillaient des paillettes et des entrelacs emperlés. Emerencia, sur le tableau, n'a plus qu'un bonnet noir, pareil à la barrette d'un prêtre, et dans les doigts une fleur fanée qui ressemble davantage à un doronique hérissé qu'à une rose. Et sur son visage, tout le désarroi d'une fillette brutalisée. C'est très chaotique, murmura le vicaire. Il ajouta, il fait sombre ici. Il se tourna vers les fenêtres à petits plombs, voilées de rideaux, les meubles qui exhalaient une odeur rance. Les servantes les frottaient avec un mélange de vieille huile de noix et de sel. Mérette a une aversion pour Dieu et des goûts pervers qui l'entraînent au-delà du cercle des humains. Vous ne pensez tout de même pas... Elle n'a aucun sens du péché, aucun respect des choses sacrées. C'est une petite enfant du Seigneur des désordres. Rien n'échappait à sa sensibilité violente, répéta le vicaire. La nature est païenne et l'enfance en est si proche. N'arrachons pas les fleurs en croyant détruire l'ivraie. Vous ne pouvez pas savoir, se fâcha le doyen. C'en est effrayant. On m'a dit qu'elle avait un don de double vue. Ces mystères-là peuvent s'expliquer. La contre-réforme a déjà suffisamment allumé de bûchers. Ne brûlez pas encore une petite fille. Sa mère était d'origine obscure. Le premier mariage de M fut un scandale. Je l'ai connue. C'était une personne de bien, simple, bonne, répliqua l'envoyé. Il demeura silencieux. Emerentia est malade, dit-il enfin. Ce sont des maladies plus feintes que réelles. C'est là que gît le bizarre. C'est là que si gît le bizarre, répéta en écho, non moins bizarre, le grand vicaire. Toute sa parenté attend qu'elle meure, le souhaite. Il eut un sursaut de révolte. La petite fille n'a que 7 ans. Elle n'est que trop précoce, soupira le doyen. Si vous saviez, le démon peut prendre les formes les plus mignonnes. Il a des dents de perles et le plus tendre sourire. Le vicaire se sentit mal à l'aise, malgré sa réelle habitude du monde. Il restait troublé par l'interrogation douloureuse du portrait de ses deux yeux peints, dont l'un était plus grand que l'autre, les sourcils inégaux, l'oreille un peu décollée, la bouche close sur un cri. Peut-être l'artiste avait-il été maladroit. Souvenez-vous de son grand-père. Ses ancêtres avaient embrassé le calvinisme. On ne parlait à Sion que de chasser le clergé. Le bailli avait fait afficher sur les murs de la cathédrale Hildebrand de Rietmatten, dernier évêque. Sans l'armée des Capucins, je n'y pense que trop. Ce fut un coup de fouet. Pour nous, une leçon, répondit le vicaire. Nous devons le reconnaître en toute humilité. Vous osez parler d'humilité vis-à-vis d'une telle hérésie, une invention satanique? Et le doyen cracha par terre. Le grand vicaire se détourna, dégoûté. Cet homme n'a aucun savoir-vivre. Les protestants prient seuls, mais ils prient. Nous, nous avons la chance d'être entourés par une légion d'anges. Ne les effrayez pas, monsieur le doyen. Est-ce un avertissement? Il y a en vous plus de violence que vous n'en supposez. Elle m'est donnée pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Église apostolique et romaine, se rebiffa le prêtre. Les enfants sont fragiles. Cette petite fille, elle a une force terrible. Sur la place de l'église, l'ours s'ébroua et se mit à danser. Il y avait déjà du monde pour le voir. Le montreur le tenait par une chaîne et portait sur l'épaule un petit animal, coiffé d'un tricorne, semblable à celui du doyen, et un paletot rouge à queue d'hirondelle. Les paysans savaient ce qu'était un ours. Ils en avaient rencontré dans les forêts de la montagne, et quand ils en tuaient un, ils lui coupaient les pattes, les mains, de devant, et les clouaient au-dessus de leur porte où elles se desséchaient, brunâtres, comme les champignons des arbres. « Mais la petite bête, qu'est-ce que c'est ?»« Sorcier, sorcillon !» cria quelqu'un. « C'est un singe !» dit Mérette, qui regardait par la fenêtre de la cuisine. Le doyen méditait au salon et Madame Fulcry était en visite. La fillette en profita pour sortir sur le perron de la cure. La voyant, le singe fit tourner la manivelle d'une caisse peinturlurée. Elle battit des mains et s'élança aux côtés de l'ours. Elle arquait ses bras en l'air, sautant sur la pointe des pieds, si joliment vive et joyeuse que les spectateurs applaudirent. Le singe se redressa, ôta son tricorne en un grand salut à l'assemblée. Tout le monde crut qu'il avait salué Emerentia. Elle connaît le langage des animaux et ils lui répondent. Il est vrai que l'ours la regardait, tournant vers elle ses yeux ronds, si mélancoliques, la humant de son museau gris dans une muselière faite de 2 cercles de fer et de cuir d'où pendait une corde. L'homme, moins grand que lui, maniait un bâton plus haut que d'eux. Les femmes finirent par être effrayées et se barricadèrent dans leur masure. Les maris, sentant la quête venir, s'éclipsèrent. Il ne resta plus que les enfants. Mais Dame Fulcry, avertie à temps, vint chercher Emerentia et l'enferma à double tour dans sa chambre. Les gamins apprirent à se poster dans un angle de la cure pour faire porter à leur ami quelques dons par une servante. Des amandes amères et des noisettes, des figues sauvages à la peau dure et violacée, mais au goût agréable. Donati ne manquait jamais de les lui donner. Quant aux deux autres filles, elles s'en inquiétaient peu, craignant le courroux de la gouvernante. Vous êtes toujours sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans l'émission La fille à la fenêtre. On vient d'écouter une chanson des Fatal Microbes, qui est un groupe de punk qui n'a pas duré très longtemps, à la fin des années 70, et la chanson s'appelle Violence Grows. J'ai découvert cette chanson grâce à la super émission de meufs qui font du punk, qui s'appelle Tu vas m'entendre, qu'on peut écouter tous les premiers vendredis du mois, à la même heure, ici de 18h à 20h sur la locale. Donc on va lire un dernier extrait d'Emerentia avant de se quitter. Elle réussit une dernière fois à tromper la vigilance de ses gardes-chiourmes. Au lieu de descendre aux îles, elle se mit à grimper le sentier rocailleux qui menait au-dessus du village, dans un bois de châtaigniers. Elle enleva ses chaussures et marcha pieds nus dans la rugueuse caresse des lichens et des feuilles sèches où roulaient des bogues aux pointes inoffensives. L'air était si tiède qu'elle ôta sa vilaine tunique de bure et son petit corps nu s'épanouit dans le soleil d'automne qui la prenait de face. Merveille d'avoir un corps, des mains, des pieds, un ventre doux et ce mystère qu'on doit cacher toujours. Pourquoi ? Les parties honteuses, disent les servantes et Madame Fulcry. C'est une naissance, c'est comme si elle avait été morte et à présent elle est de nouveau vivante. Elle admire ses bras ronds malgré leur maigreur, ses genoux, ses petits orteils et cette force qui l'émeut, cette légèreté de tous ses membres bien organisés. Ses oreilles aussi, elle les touche. Quelle joie d'entendre. Ses yeux, elle en palpe les cils. Quelle joie de voir. Elle les ferme, elle voit encore à travers ses paupières, mais tout est rouge. Pourtant son dos lui fait mal, des ecchymoses le tachètent de bleu. Mais elle entend qu'on l'appelle, qu'on la cherche. Elle arracha de l'herbe et s'en fit une couche, s'enfonçant dans les taillis. Les roches avaient conservé la chaleur du soleil. Elle se recouvrit encore entièrement de feuillage et s'endormit. Avant-hier, la petite Mairette a déserté la maison et nous avons éprouvé une grande angoisse jusqu'à ce que nous l'ayons dépistée ce jour, à 12 heures, tout en haut du bois de châtaignier où elle était assise au soleil, sans vêtements, sur son habit de pénitente et se chauffait tout son saoul. Elle avait défait toutes ses nattes et posé sur ses cheveux une petite couronne de feuilles de hêtre. Elle s'était accrochée une écharpe des susdites autour du corps et avait aussi étalé devant elle un quantum de belles fraises dont elle s'était bourrée à plein. Quand elle nous aperçut, elle voulut détaler encore une fois, mais eut honte de sa nudité et tenta de remettre son petit vêtement, ce qui nous permit heureusement de l'attraper. Maintenant, elle est malade et paraît être confuse, car elle ne fait aucune réponse raisonnable. Emerentia, couchée dans son lit à colonnes, rêve. Elle sort du presbytère et dans la rue, elle voit une bergère menant 3 bêtes. Ces bêtes, un veau, un bouc et un cochon, marchent et sont vivantes, mais entièrement déshabillées, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé toute leur peau. Leur chair apparaît comme sur l'étal des bouchers. Cette opération les a rendues méchantes. Elles cherchent à mordre la petite fille et elle en a tellement peur qu'elle regagne en vitesse l'escalier de la maison. Elle se réveille, le cœur battant à se rompre. Elle se lève et doucement, sous la lune, descend au jardin. De sa pelle rongée de rouille, de toutes les forces qui lui restent, elle se creuse un trou et s'y coule. Les larves, les lombriques, sont ses compagnons silencieux. Elle évite de les blesser. Elle respire avec joie l'odeur fraîche et putride du limon. Elle en avale une poignée. Emerentia s'est enfouie dans les entrailles maternelles, qui la bordent, se glissent dans son cou, entre ses mains, ses jambes. Elle écoute croître au-dessus d'elle la fleur pâle, à la petite tache noire. Est-elle née ? Peut-être n'a-t-elle jamais été mise au monde. Emerentia sombre dans une torpeur invincible. Aujourd'hui, il faut que la pauvre Mairette ait quitté son lit avant le jour, soit allée se glisser dans les haricots et y soit décédée. Car nous l'y avons trouvée morte, dans une petite fosse qu'elle avait creusée dans la terre, comme si elle avait voulu s'y blottir. Tout son corps était rigide et ses cheveux, comme sa petite chemise, étaient humides et lourds de la rosée qui s'était également disposée en gouttes limpides sur ses petites joues légèrement roses, ainsi que sur une fleur de pommier. Nous en avons eu grande épouvante et suis tombée aujourd'hui en grand embarras et confusion, d'autant que leurs seigneuries sont arrivées de la ville, juste alors que ma gouvernante était partie pour S, afin d'y acheter quelques confitures et provisions, de façon à traiter avec honneur leurs seigneuries. Aussi ne savais-je pas où donner de la tête, et il y avait force aller et venue, et les servantes devaient laver et habiller le petit cadavre, et s'occuper en même temps d'une bonne collation. Enfin j'ai fait rôtir le jambon frais que Dame Fulcrime a mis au vinaigre il y a 8 jours, et Jacques le Valet a attrapé 3 de ces truites apprivoisées qui viennent encore çà et là près du jardin, bien qu'on ait empêché la bienheureuse, Mairette, d'aller au bord de l'eau. J'ai eu la chance de m'en tirer avec assez d'honneur avec ces plats, qui ont bien régalé madame. Oui, les servantes avaient lavé le petit corps glacé. Elles l'ont revêtu de la belle robe de brocart du portrait, encore assez large, et Emerentia ayant allongé comme une plante privée de soleil, mais terriblement maigrie. Elles lissèrent les plis de la jupe autour des jambes, et ses pieds apparurent et leurs chevilles trop fines. Elles trouvèrent une paire d'escarpins de cuir de cordoue que la gouvernante avait cachés et les lui mirent. Depuis longtemps, une année entière et plus, Mairette n'avait pas été entourée de tant de soins, d'amour. Elle fut exposée selon la coutume, devant le presbytère, couchée dans son cercueil d'enfant. Elle reposait si légère sur le coussin de soie blanche que son corps n'y faisait pas un pli. 4 cierges allumés vacillaient dans l'éclat du jour. Tout le village défila, aspergeant la jeune morte d'une branche de buis trempée dans l'eau bénite, le geste en signe de croix. Puis elle fut reportée dans le salon de la cure, de nouveaux cierges allumés, et la veillée funèbre commença. Une 10aine de vieilles femmes en noir s'agenouillèrent, Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elle la lumière sans déclin. » La pauvre chère petite ne savait plus ce qu'elle faisait, dit le doyen. Son esprit s'était obscurci. « Nous n'en sommes pas responsables, » soupira Madame de M. On entendit le Seigneur Père pleurer et se moucher. Et des Ave, et des Pater, et des Credo. Les parents, accompagnés de Monsieur le doyen, se retirèrent dans leurs appartements. Donati apporta une tasse de café à chacune des vieilles femmes en noir. Emerencia restait des heures assise au bord de la rivière à regarder les poissons. Elle avait dû leur jeter un sort, car tous, ils venaient près d'elle, frétillaient de la queue, sortaient à demi de l'eau. On aurait pu les prendre avec les mains. Elle ne s'en est pas fait faute. On mangeait de bonnes fritures le vendredi à la cure. On en sentait l'odeur jusqu'au fond du village. Madame de M, c'était une marâtre, et les marâtres, elles ont envie de tuer la fille de la première femme. La mère d'Emerencia, la vraie, comment elle était? Qui peut savoir? De basse condition. Et le seigneur? C'était un seigneur. Oui, un seigneur de chiffon, c'était. La petite, elle a été reniée. Abandonnée. Les prières des vieilles femmes en noir ont repris. Au son de la dernière trompette, car la trompette retentira, les morts ressusciteront, incorruptibles. Une enfant sorcière, souffle la lune. Tais-toi. Parmi vos brebis, placez-moi, et des boucs, séparez-moi. À votre droite, mettez-moi. Et plus la nuit avance, plus les vieilles femmes en noir, dans le tintement des médailles et des chapelets, éprouvent une horreur sacrée, leur visage en fer de lance, aminci par le fichu noué, la fatigue, le désespoir, s'est durci. Ils osent la mettre en terre sainte. C'est une fille de riche. Mais elle, la première épouse, c'était une pauvre, une paysanne, comme nous. Il y en a qui disent même une de la rue, une de la boue. Les nobles n'ont que mépris. Sans nous, qu'est-ce qu'ils mangeraient? Rien que les citrons et les grenades qu'ils font mûrir derrière des vitres, dans leur jardin brûlant, sur les terrasses de Sion. Qu'ils font mourir, oui. Ils l'ont fait mourir. Dans la plus belle chambre de la cure, sur des lits à baldaquin, les seigneurs de M ne dorment pas. Madame se tourne vers son époux. « Je vous l'ai toujours prédit. Vous avez trop gâté cette petite. J'ai vu de suite que le mal était entré en elle. Vous souvenez-vous du premier instant où nous fûmes mis face à face ?» Le seigneur de M eut un haut-le-corps et ne répondit pas. Il se souvient du regard que sa femme avait jeté sur l'enfant de l'autre. Elle ressemblait à votre père et sans doute trop aussi à sa propre mère. Mais ils finissent par s'assoupir tous les deux, soulagés de cette fin rapide pour leur enfant sauvage. Elle a été bénie et munie de l'extrême onction. Elle sera enterrée au sein de l'église. Voilà, c'était le dernier extrait d'Emerencia. Alors pour vous dire, je vous ai lu des extraits que j'ai collés les uns avec les autres, et je voulais aussi vous dire que le livre n'est pas fini. Et qu'en fait, même si on approche de son enterrement, l'histoire d'Emerencia n'est pas finie. Donc si ce livre vous a intrigué ou plu, continuez-le, lisez-le, parce que ça en vaut vraiment la peine. Les sorcières, elles n'ont pas seulement été conduites au bûcher. Parce que la peur du diable, la fragilité de l'Église à certains moments et sa haine des femmes a donné d'autres formes au pouvoir qu'elle exerçait contre les marginales, les marginaux. Et donc là, on voit bien que dans la Suisse du XVIIIe siècle, les régions qui ont combattu contre la réforme et qui ont réussi à rester catholiques tiennent leurs sujets sous un contrôle plus étroit. Et donc la séquestration, la torture, la faim conduisent Emerencia à se laisser dépérir. On ne peut pas laisser vivre un enfant qui se refuse à l'Église. Mais d'un autre côté, Corinne Aby dépeint ici un personnage magnifique et j'ai envie de penser que pour elle, sa manière de se coucher entre les haricots, c'est sa manière de vivre parce qu'elle ne peut pas vivre de la manière dont on lui demande de vivre. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver le 23 juin, si je ne me trompe pas. Et d'ici le 23 juin, sur la locale, il y a plein de super émissions. Et notamment, tu vas m'entendre, dont on a déjà parlé, le premier vendredi de juin. Et cette fois-ci, pas le deuxième, mais le troisième, pour des raisons d'emploi du temps. Le 17 juin, il y aura Ta voisine est féministe, où on va parler de l'actualité, c'est-à-dire des affaires de harcèlement sexuel qui ont éclaté dernièrement à l'Assemblée nationale. Voilà. Ben, je vous souhaite une excellente soirée et on se quitte, comme d'habitude, parce que ça devient une petite tradition dans cette émission, on se quitte sur un morceau d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Comment je m'appelle » et qui raconte juste le parcours d'une femme à qui on a trop souvent dit quelle devait être sa vie et comment elle devait être, et du moment où elle arrive à savoir elle-même qui elle est et comment elle s'appelle. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur la locale 97.3 à Saint-Girons.
Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je l'ai oublié. Vous me le direz, je l'ai oublié. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on m'enrubanait de ces noms jolis. On m'appelait fleur, sucre ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie. Quand je fus plus grande, hélas à l'école, j'étais la couleur de mon tablier. On m'appelait garce, on m'appelait folle. J'étais quelques notes dans un cahier. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, je les oubliais, vous me le direz, je les oubliais. Quand je pris 15 ans, que s'ouvrit le monde, je crus qu'on allait enfin me nommer. Mais j'étais la moche et j'étais la ronde, j'étais la pleurniche et la mal lunée. Quand alors j'aimais, quand je fus sourire, quand je fus en vol, quand je fus lilas, j'appris que j'étais ventre et même pire, que j'étais personne, que j'étais pas. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais, vous me le direz, je les oubliais. Quand je fus berceau et puis bibe, j'oubliais tout ça quand je fus rosier. Puis me réveillais un matin torchonne, j'étais marmitasse et Pierre Dévier. J'étais ravaudière, j'étais routine. On m'appelait soupe, on m'appelait pas. J'étais paillasson, carreau de cuisine, et j'étais l'entrave à mes propres pas. Si vous le savez comment je savez comment je m'appelle, vous me le direz, je les oubliais, vous me le direz, je les oubliais. Puis un jour, du fond de ma tombe, j'entendis des voix qui se rappelaient, plaisir et douleur, souvenirs en trombe, et j'étais vivante, et on m'appelait. Peu importe alors l'état de la cage, le temps qu'il faudra pour s'en évader, je saurai quoi mettre en haut dans la marge pour recommencer mon nouveau cahier. Je sais maintenant comment je m'appelle, je vous le dirai, je vous le dirai. Je sais maintenant comment je m'appelle, et c'est pas demain que je l'oublierai. Et c'est pas demain que je l'oublierai, et c'est pas demain que je l'oublierai.